It's good.
Bonsoir, Kiora, good evening. À la technique ce soir, Yvan.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et Séverine, pour l'animation, mais je suis pas en grande forme d'animatrice.
Si,
donc on,
si.
on va passer pas mal de musique et on va parler de quelque chose des actualités et de ce qui se passe à Auckland.
Voilà.
Voilà.
À l'approche de l'automne.
Oui.
Bon, on est en plein automne, hein.
Le
temps commence à changer, commence à faire un peu froid, un peu de pluie.
J'ai vu des beaux arbres rouges, jaunes, oranges aujourd'hui et je me suis dit, ça y est, on est rentré dans l'automne, effectivement, quand même.
Voilà.
On va pouvoir mettre le chauffage, peut-être.
Bah, peut-être, hein. Alors que la plupart des Kiwis ne mettent pas le chauffage, hein, pour économiser l'électricité.
C'est comme ça que j'ai froid chez moi. Mmh. On est en, comme tu me disais, mon Kiwi est en tongue presque et encore en Bermuda. Oui.
Très bien, très bien.
On épargne la planète.
Alors, quelques annonces. Hein.
Oui, vas-y.
Donc, le 1er mai, si vous aimez la musique, dirigez-vous vers le magasin Flying Out, qui est dans une rue juste à côté de Kay Road. Mm-hmm. Et il y a une exposition photo.
Okay.
Les meilleurs photographes néo-zélandais de concerts. Donc, des photos qui déchirent vraiment, mm-hmm. on peut le dire, avec tous les concerts qui se passent à Auckland, beaucoup de musique. Mm-hmm. Donc, ça se passe à Flying Out le 1er mai.
Okay.
Ça ouvre le 1er mai. Et donc, il y a des photos, une expo photo avec des photos au mur et également un diaporama.
Mm-hmm. Ça déchire. Toi qui fais de la photo, ça t'intéresse, tu vas y aller?
Je pense. Mm-hmm. J'y participe en tant que photographe.
D'accord. Mais... Ah, bah merci de nous le dire.
Il y a
combien
y a
de temps elle dure, cette expo?
Bon, mais c'est juste vous passez, vous regardez les photos.
Et... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est juste une journée, une semaine. Combien de temps elle va
ça,
être...
ça dure un mois pendant le mois de la musique, New Zealand Month of Music.
Tout le mois de mai.
Tout le mois de mai.
OK.
Donc, allez voir les concerts aussi.
Oui, oui, oui.
Soutenez les groupes néo-zélandais.
Oui, oui.
Hein, les groupes néo-zélandais. Mmh. Et d'autres annonces. Il y a le chanteur des Stranglers qui passe à Power Station ce vendredi. Mmh. Donc, si vous aimez les Stranglers.
C'est pas trop cher. C'est pas les prix des concerts à Vector Arena.
C'est moins cher. Power Station, c'est moins cher et c'est une meilleure salle.
Ouais.
C'est assez.
Je suis allée au concert à Roanui, le concert qui s'est passé à Auckland pour une récolte de fonds pour les victimes de l'attentat des mosquées à Christchurch.
Tout à fait.
Et
donc c'était un.
Il était plein. C'était plein le
Spark. Oui.
Ouais.
Tout à fait. Avec des très bons artistes néo-zélandais d'ailleurs.
Oui, 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 oui. J'ai redécouvert. Il y avait Dave Dobbin qui était là. J'ai vraiment bien aimé Annika Moa.
Il y avait. Elle est rigolote, elle.
Ouais, voilà. Ouais. C'est ça qui me fait que je me sens le plus proche, en fait. Et
elle dit des gros mots en plus, c'est super.
Surtout, je vais pas te raconter là l'antenne, mais on se sent proche d'elle. C'est facile.
Ouais, ouais, elle est très, très, très bonne sur scène, je trouve. Une bonne connexion avec le
public. Elle jouait de la musique, mais en même temps, elle nous a quand même fait rire, donc c'était cool. Et le concert était plein. Mais tu vois, à mon âge, j'ai un petit peu passé l'âge des gros concerts.
70 ans.
C'est ça. Il y avait des gens de tous les âges. Et je me suis dit, c'est plus mon truc. C'est trop impersonnel. Hein. Donc peut-être le Power Station.
Non, ouais, Spark Arena, c'est trop grand.
Ouais.
Power Station, c'est plus à taille humaine. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à côté de Spark Arena, il y a très peu de gens qui le savent. Enfin, les gens qui connaissent la musique, ils vont souvent. Ça s'appelle The Tuning Folk.
Oui.
Et c'est juste à côté de Spark Arena. C'est une salle qui est bien plus intéressante.
Comment tu dis le nom?
Tuning Folk.
Tuning Folk.
Tuning Folk.
Tuning, donc quand on accorde les fourchettes.
Ouais.
Ah oui, d'accord. Il y a un mot
diapason,
français.
Le diapason. Ah, c'est le diapason. Mmh. Donc Tuning Folk, c'est bien plus intéressant comme ça. Là, il y a d'ailleurs un excellent concert qui va se dérouler au mois de mai. Ça s'appelle Sun Kill Moon. C'est un Américain un peu dans le style de Nick Cave et qui a fait une performance remarquable l'année dernière, 2h30. De concert à Tuning Folk, et là ça vaut le coup, hein. C'est pas cher du tout en plus. Donc Sun Kill Moon, je crois que c'est le 25 mai.
D'accord, on a le temps de s'organiser.
Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il fait comme Bob Dylan, interdit toute photo pas de téléphone portable.
Donc tu les laisses à l'entrée ou quand tu l'envoies, quelqu'un vient dans la salle te dire tu peux l'éteindre?
Non, en général, les gens sont assez respectueux. On parle pas des ados, hein.
Oui, alors que nous, à Spark Arena, le gros truc, c'était d'allumer son portable et puis même les artistes demandaient allumez vos torches et il y avait ça.
Faire chialer tout le monde. Non,
j'ai mes moyens. Je préférais les briquets, mais bon, on n'a peut-être pas le droit d'allumer sa torche.
Bah non.
Mais alors bon,
donc, ouais, c'est vrai que c'est plus.
C'est plus intime.
Plus intime.
Mmh,
même si
là,
je suis allé voir un excellent groupe qui s'appelle Larkin Poe, de blues du Mississippi. Vendredi.
Ah, sympa.
Deux jeunes filles, hein, elles ont dans la vingtaine, mm-hmm. et elles déchirent grave, hein, au niveau blues. Mm.
Comment tu trouves où aller, t'as peut-être une expérience que j'ai pas.
Les gens qui s'intéressent à la musique, il y a beaucoup de sites comme Under the Radar.
Ah, yeah.
Donc oui. Ça, vous pouvez voir tous les concerts qui se déroulent. Il y a 13 Floor, Radio 13, Ambient Light. Il y a beaucoup de sites de musique qui informent les gens sur les concerts à venir.
D'accord, merci. Bah,
on ne parle pas de New Zealand Herald, bien sûr.
Non, on ne trouvera plus
pas la peine. C'est pas la peine. Parce qu'ils ne sont pas intéressés par la musique tant que ça, quoi. Non. Donc, allez-y. Hein.
Est-ce qu'on mettra toutes ces infos sur la page de...
Bien sûr. Je pense que c'est vrai, mais... tu dois être assez
calé. Parce que sinon je prends des notes, mais je te redemanderai tout ça.
Ben,
tout
bien
à
sûr,
l'heure.
Pas de souci. Donc on s'écoute une petite musique.
Oui, c'est parti.
Voilà, c'était Estelle Goldfarb. Donc une chanson que je dédicace à Fiorina et à tous les gens qui ont été mutilés avec les violences policières, tous les gilets jaunes en France qui ont été mutilés par les événements, dans les manifestations. Donc on a une pensée émue pour tous ces gens de Nouvelle-Zélande, bien sûr, puisque c'est notre pays, la France.
Oui, tout à fait. Belle transition pour moi pour parler des gilets jaunes, ce que je veux faire. Mais auparavant, j'aimerais contacter Blandine qui habite en France maintenant et qui va nous donner son ressenti sur son adaptation ces quelques mois en France.
Voilà.
Alors,
Blandine qui était parmi nous il y a quelques mois en Nouvelle-Zélande. Qui est retournée à Paris, donc pour...
Oui, donc je fais un appel et elle va nous parler de tout ça.
Retrouver sa famille, je suppose.
Pour un peu... Ça fait longtemps qu'il voulait qu'elle voulait partir en France et ça y est, elle l'a fait, se replonger. Voilà, elle est là.
Donc, on va essayer de...
Tu nous entends, Blandine ?
Je vous entends très bien.
Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro pour que ça soit un peu plus fort, s'il te plaît ?
Oui.
Bonsoir, Blandine.
Yvan est avec moi.
Oui.
Alors, on t'écoute.
Oui, vous allez bien ?
Oui, on t'entend, mais très loin. Il faudrait que ça soit... Est-ce que tu peux monter le son de ton téléphone, peut-être ? Moi, c'est à fond.
D'accord.
Non, ça y est.
On t'entend.
Blandine ?
On l'a perdu.
Oui, ça va peut-être revenir.
Parce que c'est une connexion WhatsApp. Hein.
Normalement, ça marche, mais en fait, ça dépend de son appart. On essaye.
Voilà.
Soyez patient. Ça y est, t'es là ?
Oui, là, voilà.
Ah, on t'entend très bien maintenant.
La Parisienne est de retour.
Alors, Blandine, ouais. Que peux-tu... Ça va à Paris ? Il fait beau ? Ah, je ne sais pas si on va pouvoir ce soir, parce que ça...
Ça coupe.
Oui.
Ça coupe.
Ouais. On t'entend, mais parfois tu pars. Peut-être que c'est son... Je ne sais pas quoi faire.
Peut-être les tirs de flashball, hein, on ne sait pas.
Non, mais la manifestation, c'est passé, moi... c'est fini. On t'entend ? Tu es là ? Bon, je crois que je vais enchaîner sur les gilets jaunes.
On la reprendra tout à l'heure. Hein. On
ouais.
la reprendra tout à l'heure.
D'accord. Donc, j'arrête. En fait, cette manifestation, ça fait déjà 6 mois qu'elle existe. Et,
c'est ça, c'est le 24e ou le 23e ?
C'est le 24e, là. Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il n'y aurait plus que 23 600 personnes qui
sont
manifestées.
Bidons, les fiches.
Oui, et il y en a 60 000 selon les chiffres des Gilets jaunes. Donc, enfin, il y a toujours toujours des gens sur les ronds-points.
Quand on voit les images, quand même, que les gens filment avec leur téléphone portable, c'est complètement contradictoire avec les chiffres donnés par les médias et puis le gouvernement.
En fait, je me suis dit de quoi on va parler ce soir. Et c'est vrai que ça fait 6 mois que des gens dans le pays d'où on vient, de la France, sont dehors. Ça a commencé en octobre, mais ils ont quand même subi tout l'hiver. Tous les samedis, ils sont sur les ronds-points. Tous les samedis, ils manifestent pour... ils en peuvent plus, tellement mécontents. C'est un mouvement spontané, totalement apolitique. Et là, au bout de 6 mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y a toujours cette colère, il y a toujours ce ressenti d'une injustice sociale. Et pour moi, c'est assez... c'est assez intéressant d'y réfléchir parce que on aurait pu se dire bon ça va leur passer c'est une petite crise mais c'est très profond, c'est pour ça que c'est encore vraiment vivant et là et à mon avis ça va, je vois pas le truc s'arrêter sauf si le mouvement récupérait et il y aurait une tendance avec les élections européennes à aller vers ça quoi, la récupération. Et les gens qui n'ont pas voulu de chef donc se sont mobilisés parce qu'ils n'étaient pas représentés dans la société à aucun niveau, finalement aussi se décourage d'être récupéré. Donc ils se disent est-ce que je vais continuer à manifester ? Déjà ils votent pas parce qu'ils sont pas représentés, donc ils ont perdu toute motivation en politique.
Réprimée avec une violence inouïe la police et les CRS. Hein.
Oui. Là, Macron a complètement, enfin toute la classe politique, pour moi, c'est complètement planté.
Décrédibilisé.
Oui, ben oui. Bon, il y a toujours des gens qui sont qui encouragent ça parce que comme les riches sont au pouvoir, les forces de l'ordre défendent ces gens-là. Donc, mais d'ailleurs même les forces de l'ordre, il y a des gros problèmes à l'intérieur.
Beaucoup de suicides.
Oui, c'est ça. Des gens se suicident. Et justement, je suis allée sur la page d'un philosophe Michel Onfray qui parle de guerre civile en France. Il dit que c'est une guerre civile à bas bruit, mais vraiment, vraiment une guerre. Et il parle de tous ces policiers qui lui envoient des messages et disent que eux, ils sont là pour défendre la République, pas pour défendre l'ordre des plus riches. Et donc, ce pouvoir étant dur avec les faibles et mou, doux avec les riches, elle ne leur convient pas du tout. Et les gens sont un peu, les policiers sont un peu coincés. C'est pas du tout pour cela qu'ils ont été formés, mais.
On a besoin de la police, hein, dans tout le pays.
On a besoin d'un cadre, bien sûr.
Mais bon, faut pas qu'il déborde en réprimant des innocents, en fait.
Oui, il y a beaucoup d'injustices et avec tous ces blessés, tous ces gens qui ont perdu. Tu parlais de quoi tout à l'heure?
Une jeune fille de 18 ans qui fait des études de philo à Paris, qui a été visée.
Hein, c'est elle dont tu parlais tout à l'heure.
Tout à fait. Mais il n'y a pas qu'elle. Mais bon, elle, ça m'a vraiment marqué puisque elle a donné des entretiens qui ont été interdits dans les médias. Mmh. Et il n'y a pas qu'elle.
La plupart des manifestants qui sont allés, c'était leur première manifestation. Ils ne sont jamais sortis dans la rue pour grand-chose, mais là, ils sont innocents, ils sont complètement purs et ils n'ont pas du tout l'impression qu'on pourrait s'en prendre à eux, puisqu'ils défendent des idées, ils défendent. Oui, des valeurs, et puis surtout, ils sont à bout, ils n'ont plus le choix. Quand on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner à passer tous ces samedis dehors. Sauf que, au bout de 6 mois, cette mobilisation est un peu en baisse, parce que ça coûte cher de prendre le train pour aller se retrouver en province, là où on veut, avec les autres.
Et c'est dangereux.
C'est dangereux, voilà. Et si le mouvement est récupéré, les gens ne veulent pas être associés au Front National, à France Insoumise, à d'autres mouvements qui ne les représentent pas du tout. Donc, le problème un peu des Gilets jaunes, là, au bout de 6 mois, c'est qu'ils n'ont pas voulu de chef. Ça a été un peu se tirer une balle dans le pied parce que on va leur imposer des chefs qu'ils n'ont pas choisis.
D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que les syndicats sont souvent à la tête des manifestations, ont toujours refusé d'y participer. Donc c'est la preuve que c'est un mouvement spontané.
Oui, tout à fait.
Mais bon, maintenant ça commence à être récupéré, peut-être. Hein. Après, moi je ne suis pas expert, notamment en Nouvelle-Zélande, on n'est pas expert de ce qui se passe en France. Mais ceci dit, on voit ce qui se passe
avec les
gens qui sont sur les médias sociaux. Hein.
Oui, oui, oui. Je suis. Je ne sais pas si tu connais Étienne Chouard.
Je connais deux noms, oui.
Oui. Ça fait très, très longtemps, depuis, je ne sais plus, 2005, je crois, j'avais un petit papier sur lui. C'est un professeur d'économie dans les universités et autour de ses 50 ans, il a réfléchi, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour les autres, parce que moi j'ai bien vécu ma vie, j'ai éduqué ma famille, j'ai un bon métier, etc. Et du coup il s'est penché sur, il a voulu être beaucoup plus utile au niveau politique. Et quand même, c'est quand même son truc, hein, l'économie. Donc il a réfléchi à tout ça et il a décidé de faire des ateliers constituants. Donc de d'écrire des ateliers, des articles de la Constitution en assemblée à travers toute la France. Et il se balade dans toutes les universités, partout où on veut bien le recevoir, avec un groupe de personnes. Et tout le monde est bienvenu et on réfléchit à une question et on prend des décisions ensemble. Alors c'est un peu l'intellectuel des Gilets jaunes qui parce que lui aussi, il n'appartient à aucun parti. Mmh. Et il suit de ce mouvement de très près. Et c'est lui qui a vraiment le RIC dont on parle. Le RIC, ça veut dire quoi? Ça veut dire le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça fait longtemps qu'il l'a proposé, qu'il aimerait que les citoyens prennent la parole, qu'on leur donne la parole. Et donc maintenant, on en parle là du RIC.
Mais ça, disons que c'est la principale revendication des Gilets jaunes, bien sûr avec la démission du gouvernement, de Macron et de son gouvernement. Parce que c'est pour ça qu'ils manifestent tous les samedis, en fait.
Bah, la première manifestation, c'était la hausse du prix de l'essence.
Tout
ils se sont dit, on baisse nos retraites, on voit toutes les hôpitaux qui ferment dans les campagnes, les maternités, tout, les lignes de chemin de fer, tout, en fait, l'intérêt public. Toutes les dépenses pour l'intérêt public ne sont plus. Plus rien ne marche pour nous. On va nous augmenter, on augmente nos impôts, on ne peut plus s'en sortir, et voilà.
Tout à fait. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a plus du tout de liberté d'expression. Et d'ailleurs.
Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. C'est la seule manière d'avoir de l'information un peu plus vraie.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, va donc voir Macron le mois prochain pour discuter de.
J'ai envie de savoir ce qu'elle va lui dire.
Pour discuter d'interdire certaines personnes extrémistes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les nouvelles qu'on a eues en Nouvelle-Zélande. Après, vous interpréterez ça comme vous voudrez, mais ça risque de.
Interdire, ah oui.
Aux extrémismes, vu ce qui s'est passé à Christchurch.
Oui.
Donc, c'est la principale raison du rendez-vous avec Macron et Jacinda Ardern le mois prochain. Je pense que ça se passera à Paris.
Mm-hmm.
Donc, on va se passer une petite musique,
oui,
quand même, hein, de circonstance,
allez,
avec Charley Lee Couture. Et la chanson s'appelle Résister, Sister.
Merci.
On s'était rencontrés un peu par hasard, interpénétrés, un jeu de regard. On avait même voulu croire qu'on avait le pouvoir de réécrire l'histoire. Se dire des mots d'amour, se faire des caresses, se jurer que toujours. Autant de promesses, j'entends encore nos premiers murmures entre quatre murs. Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister, résister, brother. Comme autant des cerises, résistez, brother. Résistez, sister. On avait peur de rien, tout nous était possible. Se dire que peut-être on se croyait invincible, ni la pluie, ni la nuit. D'emprise sur nous. J'aimais tout de toi, tes faux mouvements, ton corps sur les draps, au soleil levant, l'humour et tous les sentiments façonnent le présent. Très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister, résister, brother. Résister, sister, au au temps de la crise comme au temps des cerises résistibles à l'air. Malgré tes galères de célibataire, je te voyais sourire et je voulais y croire. Aujourd'hui, ton départ interstellaire me fait penser que t'as lâché les amarres. Je me souviens très bien de t'entendre lancer que tout est possible, mais qu'il faut résister. Résister, brother. Résister, sister. Au temps de la crise, comme au temps des cerises. Résister, brother. Résister, sister.
Ah, parfait.
Une chanson de circonstance, Résister, ouais, de Charlie-Lee Couture.
Hein? Parfait, parfait.
Charlie-Lee Couture, ouais. Un français bien blues, on va dire.
C'était très beau, très bien chanté. Ouais.
Donc on parlait donc de la qu'il n'y avait plus de liberté d'expression en France.
De moins en moins. Hein? Tout à fait. Mm-hmm.
Et que Blandine donc est à Paris,
oui,
et qui voulait nous passer un petit message. Je crois qu'elle a fait une ou deux manifs des Gilets jaunes, d'après ce que j'ai compris.
Oui, la dernière, elle y était. Donc on l'appelle. Et
elle va nous passer un petit message audio, peut-être.
Oui, je pense que ça marcherait mieux.
Oui, peut-être. On va essayer de nouveau. Donc Blandine, qui était donc animatrice à Planète FM. Ouais. Qui habitait à Montyden, d'ailleurs, où j'habite.
Ouais.
Une très belle banlieue d'Auckland. C'est pas grave, hein, si on n'arrive pas à avoir Blandine.
Ça part.
Voilà. Hein.
Je ne sais pas s'il va parler des Gilets jaunes ou de. Ouais, peut-être, de
la cathédrale.
De ce qui se passe là-bas.
C'est ça. Blandine, tu nous entends ?
Séverine ?
Oui.
Ouais,
ça y est, t'es à l'antenne. On t'entend très bien, tu es à l'antenne, oui, avec nous. Alors, on a parlé un peu des Gilets jaunes, là, ça fait 6 mois que le mouvement dure. Et sur quoi tu veux intervenir, hein?
Écoute, nous déjà, c'est bien que vous ayez parlé des Gilets jaunes. On est un peu aux premières loges puisqu'on habite juste à côté de la place de la République, et c'est
oui,
là, en tout cas pour Paris, puisque c'est quand même un mouvement qui est pas mal en province. Mais à Paris, c'est là qui se retrouve. Donc on les voit avec des quantités plus ou moins grandissantes selon les week-ends. Et le week-end dernier, avec Zvi, mon fils, on sortait place de la République et ça sentait un peu le pétard, etc. J'ai dit, oh là là, ça a l'air de chauffer. Et on est sorti en fait du métro, on s'est retrouvé sur la place de République, qui était pleine de gens bien échauffés et surtout complètement coincés par les CRS qui avaient bloqué toutes les avenues qui arrivaient sur la place de la République. Du coup, on a vu tout un groupe de CRS qui est arrivé au pas de course pour foncer dans la foule et on était au milieu de tout ça côté.
Ça fait peur.
Et c'est surtout que oui, on s'est retrouvés tout à coup, on se demande, parce que parfois, en plus, les CRS, on peut tomber sur des plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Ils ont quand même des conditions, c'est des questions de sécurité aussi pour eux de faire ça. Et heureusement que j'avais Zvi derrière moi, qui est grand, mais on voit quand même que c'est un enfant.
Ouais.
Et je lui dis, mais comment on peut faire pour sortir? On commençait à paniquer parce que on voulait aller de l'autre côté de la place au risque de se prendre des manifestations qui étaient bien, bien échauffées.
Mmh.
Et puis, finalement, ils nous ont laissé sortir. Je lui dis, on habite juste là. Et donc, un des CRS s'est mis sur le côté pour laisser sortir, mais en coinçant tous les autres gens qui étaient comme nous, derrière, qui voulaient sortir aussi de la place. Je pense qu'ils nous ont laissé passer parce qu'on était avec un enfant. Donc nous, on est partis. On est venu passer 6 mois en France avec les enfants et mon mari.
Ouais.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une initiation pour. Alors, on vit chacun la chose à notre façon.
Ouais.
Pour les enfants, en fait, même si c'est un pays qu'ils connaissent parce qu'on y vient quasiment tous les ans, là, ils expérimentent un peu à long terme, sachant qu'ils vont aussi dans une école publique.
Mmh.
Donc, ils prennent. J'entends la musique.
Ouais, mais on se prépare, mais on t'écoute.
Ah, d'accord. Oui, donc en fait, ils ont eu plein de remarques, ils ont plein de remarques sur l'enseignement. Ils sont quand même grandis dans un enseignement néo-zélandais, donc arriver dans l'enseignement français, c'est très très différent. Et l'attitude des gens, des enfants aussi, par exemple. Donc la première chose que m'a dit Zvi en rentrant de l'école, c'est « Oh là là, les filles viennent te parler normalement ». Donc du coup, on disait que...
Ça, c'est plutôt
un truc
bien
qui semble... Oui, c'était plutôt bien, parce qu'effectivement en France, c'est assez amusant parce que je me dis on nous voit un peu comme un pays où les hommes sont un peu machos, etc. Et on se trouve que les hommes français sont relativement féminins, surtout si on les compare aux hommes néo-zélandais. Et surtout, l'égalité des sexes ici n'est pas un vain mot, contrairement à la Nouvelle-Zélande. Et même s'il y a effectivement encore pas mal de choses à faire, on sent que les femmes sont investies de leur vie professionnelle, que c'est quelque chose de normal pour tout le monde. Les enfants, bien entendu, font beaucoup d'after school et autres.
Rappelle-toi, est-ce qu'il n'y a pas une question de coût? Parce que en France, on est aidé, les garderies sont beaucoup moins chères, les activités après l'école sont subventionnées, et il est beaucoup plus facile de faire garder ses enfants qu'en Nouvelle-Zélande. Faut être riche.
C'est justement un état d'esprit, qu'on estime en Nouvelle-Zélande que c'est le travail des femmes, alors qu'en France, c'est pas du tout ça. Et donc, elles ont effectivement un soutien. Alors bon, les crèches, c'est un casse-tête terrible. Il y en a beaucoup, mais c'est très difficile.
On s'inscrit quand on est enceinte.
Voilà, mais les choses s'organisent avec des puéricultrices, etc. Donc de toute façon, ça s'organise. Mais bon, en tout cas, on voit dès l'âge adolescent, en tout cas pour eux, puisqu'ils sont en quatrième et sixième, que les filles parlent tout à fait normalement, sont pas là à regarder les garçons comme si c'était des choses. Je dis pas qu'elles sont pas intéressées, bien au contraire. Mais il y a un sentiment, moi, qui m'a vraiment rafraîchi, il fait du bien en bonne féministe que je suis, de voir que bon, il y a un endroit où effectivement, un endroit de parole. Alors bon, par exemple en politique, c'est amusant parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec des personnes qui se disent, vous êtes très avancé en politique, en égalité des sexes, parce que c'est vrai qu'on a quand même Jacinda Ardern, et puis on a eu Hélène Clark avant, et c'est vrai la Nouvelle-Zélande a été les premières femmes à voter, donc je leur disais que c'était assez amusant. On a effectivement, je pense que la Nouvelle-Zélande est très en avance au niveau politique, parce que pour le coup en France c'est carrément l'inverse.
Tout le monde n'est pas d'accord dans le studio, mais nous n'allons pas engager le débat.
Bon, oui, mais dans la vie de tous les jours, en tout cas, c'est clair et net, il fait bien meilleur être femme ici en France qu'en Nouvelle-Zélande, je trouve.
Et est-ce que...
Homme en France qu'en Nouvelle-Zélande aussi, hein, on peut...
De quoi, pardon, je ne t'entends pas, Yvan.
Qu'est-ce que tu dis? Répète.
C'est sûrement mieux d'être un homme en France qu'en Nouvelle-Zélande aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, pour juste fermer la parenthèse, on a chacun notre dada, Séverine. Le mien, c'est le féminisme. Le féminisme, tout le monde a y gagné. Oui, c'est ça. Le féminisme, tout le monde a y gagné. Oui, l'égalité des sexes, j'entends. Et les hommes aussi, bien entendu, parce que on leur a signé des rôles aussi stéréotypés, ça peut pas être bon. C'est-à-dire que si on rentre pas dans le rôle, on est obligé de vivre une vie qu'on n'a pas envie de vivre. Et ça, c'est...
Je me posais la question, puisqu'ils sont en train de vivre, ils sont au cœur des manifestations, tes enfants. Est-ce que... ils voient cette façon que la population a de reprendre le pouvoir ou d'essayer en tout cas de réagir, de pas être des moutons comme ici. Ils en pensent quoi? Ils se disent c'est dangereux, on a envie d'aller les aider, ils posent des questions, vous avez des débats politiques, ça m'intéresse ça, de savoir comment ils réagissent.
Ouais, c'est amusant parce qu'ils voient pas ça du tout comme quelque chose qui les concerne plus qu'autre chose. Ouais. Ils voient ça un peu comme quelque chose qui va avec le pays, en fait.
Et surtout, la France,
il y a un esprit de revendique. Il y a une question de revendication aussi. Et ça, c'est une autre chose sur l'école qu'ils ont remarqué, c'est l'espèce de insolence en classe des élèves. Bon, ça, c'est
en France, tu veux dire?
Quand je dis frise, oui, une espèce de non-respect des profs, mais en même temps, c'est assez amusant parce que c'est un enseignement qui enseigne les choses de façon autoritaire, et forcément, quand on est adolescent, on se rebelle contre l'autorité, et là, ils se rebellent. Mais on apprend C'est très très amusant parce que d'un côté on apprend à l'école des choses, on leur apprend pas vraiment à réfléchir, mais on leur apprend à se révolter en fait. C'est bizarre quoi. C'est-à-dire que d'avoir un esprit politique, à savoir dire non.
Mais moi je crois
surtout.
C'est un
non qui est pas toujours constructif d'ailleurs. Hein.
Je crois surtout c'est
parfois ça l'est, parfois ça l'est pas.
En France, on débat beaucoup plus à tous les âges. Peut-être ça commence assez jeune.
Oui, bien sûr.
On ose parler. Bon, de toute façon, il se passe plus de choses. On est plus dans une dynamique politique peut-être.
Et dans les trucs de famille, c'est très amusant. Moi, j'ai eu un repas avec. On est resté chez mon père pendant un moment, et j'ai commencé. On s'est frité avec moi. Ils étaient étonnés, et Siane aussi. On a commencé à se parler vraiment fort sur des idées. On parlait des histoires de pédophilie dans l'église, et donc ça, le ton est monté très vite. Et puis bon, une fois que la discussion était faite, tout le monde est retourné tranquillement. Il y avait pas de. Et c'était assez amusant parce que du coup, Zvi a commencé un peu à intervenir, à dire ce qu'il avait à dire, parce que effectivement, on énonce sa pensée, on la défend. Alors les trois quarts du temps, la conversation est finie, tout le monde est un peu resté sur ses
positions.
Mais c'est positif, mais en même temps, on peut toujours amener des choses, surtout quand c'est entre générations, hein, parce qu'en général, on a des parents qui sont toujours plus accrochés à leurs idées.
Ça ne peut être qu'enrichissant pour les enfants d'assister à des débats d'idées de toute façon. Je trouve qu'il y en a pas.
Et puis voir aussi, que personne n'en sort humilié en fait. Parce qu'il y a une peur un peu, je pense, en Nouvelle-Zélande, de perdre la face, d'être un peu. Alors que là, chacun lance ses idées avec force, avec. Et puis bon, usage du langage, plus c'est brillant, mieux c'est vu, plus on gagne de points. Il y a toute une façon de penser qui est très 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 différente. Et ça, je suis vraiment contente qu'ils l'expérimentent de façon à leur âge déjà et sur une longueur un peu plus longue que le un mois qu'on passe d'habitude en vacances.
Moi, j'ai une question pour Blandine.
Non, une question.
Ouais.
Est-ce que tu aurais pas laissé tomber ta clope dans la cathédrale?
Il veut revenir.
Moi, je clope toujours. Alors, pour revenir, l'autre chose qui est incroyable et qui, pour moi, tu me connais, Séverine, et c'est le bonheur, c'est d'être au milieu de Paris. On a la chance d'avoir on a un petit appart qui est République sur les bords du Marais, au début du Marais, pas du côté de la Seine, mais justement du côté République. Et du coup, on est partout. À pattes, on va très vite à pied. Je passe mon temps à Beaubourg et donc moi en musée, bien entendu, j'ai ma dose de musée.
Et les enfants aussi.
J'arrête pas. Les enfants ont leur dose, mais pas dans le même sens. Ils en ont un petit peu ras-le-bol, mais bon, c'est comme
c'est
ça.
Ce que je voulais dire.
Mais donc oui, j'avais bien compris. Et puis donc par exemple, quand il y a l'histoire de l'incendie de Notre-Dame, on a vu ça, on voyait ça à la télévision, et c'est Brogan, notre kiwi de service, qui a insisté, qui nous a dit faut absolument qu'on y aille. Et donc bon, Zvi est allé. On a une photo de lui qui est très drôle avec sa capuche sur la tête. Il avait absolument pas envie d'y aller. Ça l'intéressait pas plus que ça. Siane nous a suivis avec. C'était ok, Siane, pour nous suivre. Hein. Et Brog me disait oui, pour une fois qu'on est là sur place, qu'on est. C'était assez incroyable d'ailleurs, comme atmosphère. Moi personnellement, qu'elle est brûlée, ça ne m'empêche pas de dormir loin de là. Ouais. Mais c'était surtout. De voir, il y avait une foule de gens incroyables. C'était une soirée où il faisait assez chaud en plus, et c'était assez doux. Donc tout le monde y allait à pied, à trottinette, la grande avenue, la rue de Rivoli était bloquée. Enfin bon, tout le monde était là et il y avait ce qui était très étonnant, c'était de voir une grosse foule en silence. Il y avait des commentaires, on entendait les gens parler. Ouais, certains émus, certains qui faisaient des commentaires à la con. Il y avait une fille qui était agrippée à sa bicyclette, qui avait les larmes aux yeux, qui pleurait en silence. En regardant donc il y a des gens qui priaient, il y a des gens qui faisaient des blagues, repentez-vous, enfin donc il y a eu une espèce de, à part ces quelques choses, on pouvait noter des tas de choses, mais c'était aussi très très silencieux, une espèce de d'effarement effarement mélangé à la curiosité du badaud aussi, hein.
Oui, et donc tu étais sur place, tu l'as vécu, et est-ce que on a des pistes, on sait ce qui s'est passé, parce que moi la première question quand j'ai vu Notre-Dame brûler, je dis mais pourquoi ça a pas brûlé pendant 700 ans ou même 800 ans, on a passé par l'Inquisition, par des tas de guerres, Notre-Dame est là et là ça brûle, mais comme ça, comme un feu de paille, c'est vraiment bizarre.
Ils avaient visiblement un système de surveillance qui était
défaillant,
qui reposait sur l'humain, c'est-à-dire qu'il y avait des alarmes effectivement, et c'est quelqu'un qui devait aller vérifier, au lieu d'avoir des caméras partout dans la cathédrale en fait. Donc aux causes, il y a toujours des enquêtes qui sont faites en ce moment, et puis bien sûr d'ailleurs les réseaux sociaux qui se déchaînent, parce que ce genre d'endroit, ce genre d'événement, ça réveille toujours des tas de choses, notamment les trucs de complot, etc. Enfin,
est-ce qu'on saura jamais la vérité? Ça, je ne sais pas.
Je pense qu'ils sont, ils vont finir par savoir, et puis, parce qu'il y a quand même énormément d'experts du feu qui travaillent sur la chose. Et alors, ce qui est assez marrant, justement, sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a des gens qui prennent du bois de 300 ans et puis qui le brûlent au chalumeau. Et les experts disent que c'est complètement ridicule parce que c'est absolument pas les conditions dans lesquelles, part l'ancienneté du bois. Oui, parce que c'était un milieu qui était confiné, ce qui veut dire peu d'oxygène, ce qui facilite la combustion. C'était pas non plus au chalumeau, c'était probablement plutôt un petit quelque chose. Donc, en fait,
il y a quand même une explosion
qui s'est jetée dessus. Ouais, écoute, je sais pas, je t'avoue que j'ai pas non plus. Il y avait quand même pas mal de produits sur place. Il faut pas oublier qu'ils étaient en train de rénover la flèche. Donc il y avait pas mal de produits sur place aussi. Enfin bon, je pense que c'est
difficile de savoir la vérité. Est-ce qu'on la
sait? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même en France, il y a quand même eu plus de 10 églises brûlées en 6 mois.
On en a parlé.
Ouais. Bon, l'autre chose aussi, ce que disait, c'était assez amusant, ce que disait un spécialiste dans les nombreuses choses qu'on a entendues à la télé, parce que je vous raconte pas tout ce qu'on a pu manger sur la question. Mais quelqu'un disait ce qui est très amusant, c'est qu'il y a quelques temps encore, les églises étaient un peu les paratonnerres et le nombre d'églises qui ont brûlé, par le passé, c'est énorme, en fait. Donc, on n'est plus du tout habitué à voir ça. Et ce qui c'est aussi très, très symbolique. Notre-Dame, c'est un endroit où beaucoup de gens sont allés et on sait tous très bien que quand il se passe quelque chose de catastrophique quelque part, j'y étais, j'y suis allée, je sais ce que c'est. Forcément, il y a quelque chose d'égocentrique qui se met dans le mix et qui fait que les gens sont complètement
Bien sûr,
c'est un symbole, mais bon, la réalité, c'est que le touriste lambda qui va là-bas va le voir parce que historiquement, c'est important. Mais bon, un symbole d'une foi catholique que très très peu de gens ont. Il n'y a pas tant de gens que ça. Bon, il y a pas mal de gens, mais on s'entend bien aussi.
La plupart des gens qui réagissent,
c'est historique aussi. Enfin bon, ça soulève, c'est historique. En termes de symbole, c'est plus. Moi, je suis désolée, je suis peut-être un peu dure, mais pour moi, c'est plus un symbole touristique, un symbole. C'est aussi un symbole religieux, bien entendu. Mais je crois que les gens se.
C'est le symbole du christianisme. Et si on peut faire le parallèle avec quand même ce qui s'est passé, le massacre qui s'est passé à Christchurch, faut pas oublier que Christchurch, c'est
l'église du Christ.
Exactement. Donc,
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est Pâques, ça s'est passé.
Exactement. Premier jour de.
Il y a vraiment beaucoup. Oui, c'est un peu lourd quand même. Blandine, je suis le maestro parce que c'est pas moi qui suis aux manettes.
On te reprend après une pause musicale.
Oui, d'accord, très bien.
À tout à l'heure.
Et donc c'est vrai que les églises sont particulièrement ciblées en France et ailleurs dans le monde. Donc il n'y a pas que les églises, il y a les mosquées aussi.
Les symboles religieux.
Tout à fait. À vous de faire vos recherches et de faire des recherches. Non seulement dans les médias traditionnels, mais aussi
dans les médias
alternatifs.
Indépendants.
Voilà. Donc on va se faire écouter une petite musique. C'était Estelle Goldfarb avec Natasha Atlas.
Natasha Atlas, c'est la chanteuse.
C'est la chanteuse. Ah. Et le titre, c'est Au lever du jour, puisqu'on était en contact avec Blandine.
Si, donc, au petit déjeuner.
Et une chanson qui est à connotation, bien sûr, arabe. Oui. Donc, pour saluer tous nos amis musulmans qui nous écoutent et qui sont victimes aussi d'atrocités. Oui. Hein, puisque là, aux États-Unis, il y a eu un acte terroriste, d'ailleurs, qui s'est passé il y a quelques heures, je pense. Donc, on salue tous nos amis musulmans. Hein. On est là pour tous être solidaires avec eux et tous ensemble pour résister donc, contre toutes ces...
Encore un truc. Bon, un truc...
attaques terroristes.
C'est de plus en plus. Blandine, tu es encore avec nous ?
Oui. Oui, je suis toujours avec vous, oui.
Donc, est-ce que tu veux
je voulais juste dire pour finir. Ouais, je voulais juste dire pour finir que l'autre chose qui est assez qui est intéressante pour moi en étant ici, c'est que je peux enfin profiter de la vie parisienne et puis bon de pouvoir partir en province voir mes amis, etc. Et d'avoir le temps de le faire surtout. Et ça, c'est vrai que pour les gens qui sont comme nous, qui habitent en Nouvelle-Zélande et puis qui retournent en France pendant un mois, etc. On sait tous à quel point c'est difficile de voir les gens à toute vitesse. Oui. Et les choses à toute vitesse aussi. Moi qui adore les expositions, j'ai toujours la frustration de l'expo qui finit juste avant que j'arrive, qui commence juste après que je parte.
L'arrachement.
Et là, c'est vrai,
Sur ce
mois, j'ai le temps. Oui, ça tourne au délire. Il y a certains jours, je me suis fait 3 expositions dans la même journée. Enfin, bon, je me fais vraiment, vraiment plaisir. Et donc, c'est être entouré aussi d'un artistiquement, en fait, de choses incroyables. Notamment, j'aime beaucoup l'art contemporain. En art contemporain, je vois des trucs qui sont fantastiques, quoi. Donc, c'est vraiment.
Quelle est la dernière expo pour nous faire un peu rêver, là, dans notre entrée dans l'automne? Fais-nous décoller. Qu'est-ce que t'as vu?
Oh, écoute, j'en ai plusieurs en tête. J'en ai vu une quand je suis arrivée que j'ai beaucoup aimée sur Basquiat, qui était à la Fondation Louis Vuitton, qui était vraiment, vraiment super bien. En art contemporain, je me régale avec les collections permanentes de Beaubourg et puis aussi les les expositions temporaires, ils ont des choses qui sont fantastiques. Et je vais aller donc le 13 mai, là je pars avec deux copines à Metz, parce qu'à Metz il y a en fait une annexe du Pompidou justement. Ils essaient de délocaliser un peu les musées. Il y en a un à Lens, il y a un Louvre à Lens, dans le nord de la France, et à Metz, donc dans l'est de la France, ils ont ouvert il y a quelques temps déjà, ça fait un moment, cette antenne de Beaubourg, et donc j'y vais le 13 mai, donc je vous en parlerai sans doute, j'irai refaire un petit tour là-bas. En général, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en province, ce sont des lieux en général qui sont exceptionnels, tant parce que ça peut être une nouvelle architecture, comme c'est le cas pour Metz, ou alors des vieux lieux qui sont réhabilités et utilisés pour de l'art. Par exemple, il y a à Paris, il y a un endroit qui s'est créé, qui est une ancienne pompe funèbre, et dans le 19e, et qui est un lieu fantastique. D'ailleurs, j'ai pensé à Margot, elle aurait adoré ça.
C'est pas là où il y a eu une expo, pas virtuelle, mais où on projette l'œuvre. Par exemple, on a fait ça pour Van Gogh.
Oui, non, c'est pas celui-là. C'est le centre. Je ne sais plus du nom. C'est dans le 11e, celui-là.
Parle, mais ça avait l'air d'être un endroit fantastique avec des hauteurs de plafond vertigineux.
J'ai une autre question pour Blandine.
Attention.
Donc, puisque tu parles d'exposition, tout ça, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Macron qui disait qu'il n'y avait pas de culture en France?
C'est faux.
Ah, écoute, j'ai pas du tout écouté ce qu'il a dit, mais ça n'a aucun sens, c'est clair. S'il a dit ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on le voit même à l'école, même le programme d'histoire maintenant a de l'histoire de l'art intégré dans le programme d'histoire. Donc, en termes d'art, bon, alors, culture, faut savoir ce qu'on entend par culture aussi, hein. Il y a culture populaire, il y a culture littéraire, il y a culture, on peut mettre tellement de choses là-dedans que la culture pop, c'est une culture, enfin bon, on peut mettre tout ce qu'on veut dans le mot culture. Donc
peut-être qu'il a voulu dire qu'il n'avait pas de culture personnelle.
On peut
le comprendre comme ça.
Mais tu sais, le problème, je trouve que le problème des gens qui ont des formations comme la sienne, hein, c'est qu'ils apprennent à utiliser des mots en les galvaudant complètement. Et du coup, ils peuvent dire tout et n'importe quoi avec la même phrase. Et c'est ce qu'on leur apprend à faire quelque part.
Et est-ce que l'ambiance est bonne à Paris?
Écoute, moi j'ai pas trouvé ça. En même temps, on vit un peu. J'ai pas beaucoup de boulot. Brock travaille pour son entreprise néo-zélandaise. Donc du coup, à part par le biais de nos copains, on n'est pas du tout. On n'expérimente pas du tout la vie professionnelle de tous les jours. Du coup, on est un petit peu comme des touristes privilégiés en fait. Des touristes qui se connaissent bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est difficile de dire. Moi, ce que j'en. Et puis en plus, on est dans un quartier qui est pas un quartier à difficulté non plus, qui est où on voit des gens avec des petites valises partout parce qu'il y a du Airbnb, il n'y a plus savoir qu'en faire dans le Marais. Donc voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas non plus représentatif de quelque chose. On est à Paris, dans le centre de Paris, dans un quartier qui est plutôt aisé, avec pas mal de touristes. Il n'est pas rare qu'on entende parler anglais ou italien ou espagnol dans notre quartier.
Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes d'insalubrité par rapport aux migrants qui n'ont
Écoute, ils sont même chose. Tu les vois pas dans le Marais, ces mecs-là et ces femmes-là.
On a un quartier pauvre.
Ils sont plutôt aux abords des. Oui, non, aux Belles-Îles encore, banlieues. Parce qu'on y va souvent ce côté. Ils sont aux périphéries de Paris surtout. Par contre, il y a des. Alors le truc qui choque toujours quand on revient, c'est qu'il y a des gens qui font la manche partout dans le métro
SDF,
partout.
Hein.
Et ce qui est marrant aussi, c'est que les gens donnent énormément. Hein? C'est-à-dire que très souvent, je vois les gens donner sans arrêt, arrêt. Et on donne sans arrêt, hein. Si on veut, on peut faire ça toute la journée, hein. Mais il y a toujours une personne qui donne quelque chose. Donc c'est assez amusant aussi, il y a une sorte de compréhension des gens. On voit que ça fait partie de la vie sociale, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont dans la rue, c'est ce qui est triste, hein. Mais en même temps, les gens donnent.
On rejoint
le
sujet là de l'émission d'aujourd'hui, un peu les gilets jaunes et la fracture sociale de ce qui se passe en France. On se rend compte qu'il y a un problème énorme de fond. Les gens deviennent de plus en plus pauvres. Il y a très peu de riches et la classe moyenne s'appauvrit. La classe pauvre est très très pauvre. On parle de paupérisation.
Enfin, tu sais, on parle de classe très pauvre. Moi, j'ai une tante qui est à la retraite. Son mari était artisan, donc inutile de dire que sa retraite, elle faisait partie des petites retraites. Et ben, au début de l'année, sa retraite a été augmentée. parce qu'elle fait partie des tout petits revenus. Donc c'est, y a, on parle aussi, elle me disait, on parle de ce qui va pas en France, mais on parle jamais de ce qui va. Donc il y a aussi des choses qui sont faites quand même, parce qu'elle, elle l'a vu concrètement sa fiche pas de salaire, mais de retraite.
Ouais. Est-ce que la vie est chère?
Ouais, la vie est super chère.
Qu'est-ce qui est cher?
Surtout quand on vient de Nouvelle-Zélande avec le pouvoir d'achat qu'on a. Non, c'est très cher.
Mais qu'est-ce
très
que...
cher, la nourriture est chère, tout est cher. Ouais. Par contre, en revanche, tout ce qui est santé, etc., effectivement,
gratuit.
Accès à la culture. Bon, moi, j'ai des cartes pour les musées, mais tous les enfants jusqu'à 18, parfois 25 ans, rentrent gratuitement dans tous les musées. Donc voilà, il y a des choses qui sont... Et l'enseignement, les enfants vont dans une école publique, on leur prête les livres, ils ont des tablettes, enfin, c'est un collège qui est assez...
Moi, j'ai trouvé qu'en France, en France pendant un an, j'ai vécu un an en France et j'ai scolarisé mes deux filles dans le primaire, et j'ai trouvé que c'était encore un gros fromage, la France. Les gens se plaignaient. Mais bon, ce que je pense, c'est qu'il y a un problème de fond, il y a un problème de vision, il y a un problème écologique. On n'en va pas du tout vers la transition écologique. Pour moi, on court vers le désastre, et il n'y a pas une vraie vision. Et tout, en fait, les deux mouvements sont liés, le mouvement écologique, les gilets jaunes, ça va vraiment ensemble. Je trouve que par rapport à la Nouvelle-Zélande, les gens étaient super bien lotis et s'en rendaient pas compte. Donc il y a beaucoup de travail à faire ici aussi.
Et une dernière question pour Blandine.
Oui.
Est-ce que vous avez la 5G en France? À Paris, il y a la 5G?
J'en sais rien. Je suis pas la bonne personne. J'en sais absolument rien. Je peux pas te répondre là-dessus.
Tu vas faire une enquête pour nous.
Je peux faire une enquête si tu veux.
Merci. Parce qu'il y a certaines villes en France où ils coupent les arbres pour mettre des relais. Parce qu'apparemment, ça bloque la 5G. Il faut qu'il y ait des relais un peu partout.
Alors, la 5G, il y a des gens qui disent que humainement, ça va faire des dégâts considérables sur les cerveaux, sur...
Ah, bah, ça, c'est clair. Donc, faites vos recherches.
C'est clair que quand on commence à couper les arbres pour pouvoir faire passer les ondes, c'est qu'il y a du gros matos, quoi.
Ça va passer de 2,5 Hz. Les ondes à 60, ça sera l'équivalent de mettre ta tête dans un micro-ondes. Donc,
je te raconte pas. On est déjà un peu grillé, on va être complètement.
C'est assez sinistre.
C'est violent, oui.
C'est assez sinistre.
Oui.
C'est pratiquement une arme de destruction. Là,
massive.
Donc, fais ton enquête, Blandine.
Voilà.
On te remercie de ton intervention on t'envoie un peu de.
C'est un plaisir de vous avoir depuis le temps que je vais essayer de parler avec vous.
Super.
On continue de profiter des beaux jours qui viennent.
Oui, merci.
On t'embrasse bien fort.
Oui,
à très
aussi.
Bientôt
au revoir,
pour une nouvelle enquête. Voilà donc Blandine qui se trouve à Paris. Et donc toi, Séverine, tu es de quelle origine française? De quelle région?
Moi, je suis une sudiste, comme on dit. Je suis née. J'ai révisé mon bac à la plage.
J'ai passé son bac à la plage.
Pratiquement, bac à sable, moi. Et je viens de Saint-Raphaël. C'est sur la Côte d'Azur et c'est entre Saint-Tropez et Cannes.
Très bien. Donc, on va se passer une petite musique avant de se retrouver pour dire au revoir. Et cette fois-ci, c'est une voix masculine, n'est-ce pas? Une voix masculine de Jacques Higelin.
Casse-toi de mes quais, tocard. Depuis que la cervelle hypertrophiée d'un crack de polytechnique, ton père m'a couché sur un brevet. J'en ai usé des kilomètres de voies ferrées à me tirer des tonnes de ferraille. Wagon de tête au wagon de queue. Je m'en suis trimballé des convoyeurs, des assassins, des violeurs et des ambitieux, des chefs d'État, des fonctionnaires, des sans-billets, des anonymes, des amoureux. Je suis la loco qui entre en gare, car à toi si tu te casses pas vite fait, Mirail. Chance, tête baissée entre les rails, dragon de fumée, dragon de métal, j'avale les bois, de caillasse et d'acier. Crache la vapeur, j'avale le soufre, je dévore les précipices et je m'engouffre dans les tunnels comme un serpent luciférique. Quand on m'aiguille de travers sur les voies sens unique, des boules aveugles en ligne de fuite au devant du clash vers le grand flash d'enfer. Je suis là loco, j'entre en gare, dégage de mes rails, tocard. Des criseux, des grands rêveurs, des voluptueux qui se laissent bercer, qui se laissent berner par le balancement capricieux du rail. Ouh ! J'en ai mené à destination des enclumeurs de fondations, des bâtisseurs de points de repère. Planté dans le ballast et les remblais de la voie féerique, des premiers chemins de fer féerique. J'en ai capté des grands signaux, signaux de vitesse, signaux d'alarme, des rouges, des bleus, orange ou vert, des panneaux blancs, des panneaux jaunes, qui t'envoient valser dans la toile du grand trafic.
Voilà, c'était une chanson de Jacques Higelin, extrait de son dernier album en date, l'album posthume avant qu'il meure, je crois. Il est mort, Higelin, c'est ça?
Moi, ouais, j'ai pas suivi, ouais. Mais. Ouais,
et donc, Loco Loco. Le monde devient fou. Hein.
C'est ce dont on parlait avec la 5G qui voilà. Risque d'arriver.
Mais faites vos recherches, hein, faites vos recherches, parce que c'est très alarmant. En tous les cas, on doit se quitter. Donc, merci Séverine. Et
merci
on
toi,
souhaite
surtout.
Une bonne semaine à tous les auditeurs.
Oui,
les auditrices aussi.
Oui, et à dimanche prochain.
Très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Jamais.